précisément 8h sur Europe 1.
Si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l'épidémie, nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures.
Plus dur serait un reconfinement. Jean Castex, devenu Premier ministre après avoir mis en musique la sortie du huis clos sanitaire au printemps, redoute de devoir faire machine arrière. Qui a un plan contre la pandémie? C'était le sujet prioritaire du débat cette nuit entre Joe Biden et Donald Trump. Ce dernier, accusé par ailleurs d'attiser les feux du racisme. On va entendre les deux candidats. Dans ce journal, Twitter, Instagram, les échanges et le téléphone du tueur de Samuel Paty analysés par les enquêteurs. Et puis le nouveau Lucky Luke, lui aussi, tiens, confronté à la question du racisme.
46 millions de Français sous couvre-feu, l'économie étouffe. Nicolas Barré nous le disait à 7h, les chefs d'entreprise perdent confiance. Comment sauver ce qui peut l'être? Sonia Mabrouk reçoit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dans un quart d'heure. Vous écoutez Europe 1, très bon début de journée.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bienvenue dans la France qui se couche tôt. 54 départements sous couvre-feu dès ce soir, alors qu'on a recensé plus de 41 000 contaminations au Covid hier dans le pays. Nouveau record.
Et c'est la question que tout le monde se pose, même si le gouvernement s'y refuse officiellement, en tout cas à ce stade. L'idée d'un reconfinement fait son chemin. Les informations d'Adrien Beck.
Reconfinement, le mot était tabou. Il revient ces derniers jours avec insistance au sein de l'exécutif. Le couvre-feu était indispensable, mais je crains que ce ne soit pas suffisant pour faire baisser la pression, s'inquiète une ministre. Un autre, soyons honnêtes, le couvre-feu, c'est un pré-confinement. Sans évoquer directement cette option, Jean Castex, hier soir, a préparé les esprits à des mesures plus fortes.
Si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l'épidémie, nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures. Il est encore temps de l'éviter, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Alors officiellement, la ligne reste toujours tout faire pour éviter un reconfinement généralisé. Mais quid alors de reconfinements locaux? La suite dépendra en tout cas, dit un proche d'Emmanuel Macron, de la vitesse de circulation du virus, de l'efficacité des mesures et de la résistance du système hospitalier. En clair, ce sont bien les indicateurs qui vont décider.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. On atteint en France le cumul de 999 000 contaminations au Covid depuis le début de l'épidémie. Par ailleurs, si vous ne l'avez pas fait hier soir, il est encore temps de télécharger l'application Tous Anti-Covid, nouvelle version. On a testé ce matin, ça semble enfin fonctionner.
Et 8h03 sur Europe 1, on part aux États-Unis.
Europe 1. I promise you this.
I am your voice.
The American election.
C'était le deuxième et dernier face-à-face entre Donald Trump et Joe Biden cette nuit.
Et nous avons choisi de vous faire écouter deux moments clés de ce débat. D'abord, celui-ci au tout début, quand le candidat démocrate Joe Biden accuse le président sortant d'être responsable des 220 000 morts américains du Covid.
Celui qui est responsable de tant de morts ne peut rester président des États-Unis.
Ce n'est pas ma faute si le virus est venu, c'est la faute de la Chine.
La faute de la Chine, ça commençait fort. Il y a eu un peu plus tard cette défense, pour le moins poussive, de Donald Trump sur la question du racisme.
Je ne vois pas bien le public parce que c'est très sombre, mais je m'en fiche de qui est là. Je suis la personne la moins raciste de cette pièce.
Alors l'espèce d'Abraham Lincoln qui est en face de moi est en fait le président le plus raciste de notre histoire. Il jette de l'huile sur tous les feux racistes.
Et nous retrouvons Théo Manval comme chaque matin. Bonjour Théo. Théo Manval qui est comme chaque matin dans le journal de 8h.
Bonjour.
Partage avec nous son carnet de route de cette campagne. Théo, vous êtes aujourd'hui à Silver Bay, tout au nord des États-Unis, une région industrielle.
Et cette nuit, Donald Trump a aussi défendu son bilan économique. Théo, est-ce que les électeurs que vous avez rencontrés partagent sa vision positive des choses ?
Eh bien, la réponse est oui. Silver Bay, en effet, tout au nord du Minnesota, ces mines de fer au bout d'une route sans fin, bordée de falaises, que survole de temps à autre l'un de ces aigles à tête blanche qui font l'image de l'Amérique. Tout au long de cette route, dans un état historiquement démocrate, des pancartes de soutien de Joe Biden. Mais dès qu'on passe l'entrée de la ville, une enfilade de panneaux Trump 2020.
Bon, mais Donald Trump.
L'économie est en plein boom, votez pour lui, lance ce mineur, visage noirci derrière la vitre de son pick-up. Adam, chauffagiste, est un peu plus loquace.
Depuis 2016, il y a beaucoup de boulot, surtout dans cette région, pour les plombiers, les électriciens. Et c'est surtout lié aux baisses d'impôts par Trump, notamment l'impôt sur les sociétés. Les entreprises ont plus d'argent, elles réinvestissent. Ça m'a donné du travail. C'est surtout pour ça que je voterai Trump.
Le président qui a aussi levé un moratoire pris sous Barack Obama sur les explorations minières ici, les compagnies ont embauché, notamment des jeunes, se félicite Monsieur le maire. Sous Donald Trump, le Minnesota a connu un taux de chômage à 2,6%. Alors oui, le Covid l'a fait quadrupler, mais Dustin n'a pas oublié.
Ça commence à repartir. On a recréé la moitié des emplois perdus à cause de la pandémie. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on est sur le bon chemin.
Une chose a changé, en revanche, ces derniers jours. Pour la première fois, les électeurs accordent la même confiance à Joe Biden qu'au président Trump dans un sondage pour relever l'économie. Ce n'était pas le cas jusqu'ici. Mais écoutez, Jérémy.
Beaucoup de prix ont augmenté à cause des guerres commerciales de Trump. Tellement de choses nous viennent de Chine ou d'Europe. J'espère que les démocrates rouvriront les routes commerciales.
Démocrates qui rappellent aussi que Donald Trump avait hérité d'une courbe du chômage en baisse constante déjà depuis les années 2010.
Théo Manval, tous les jours à 8h. Et tous vos reportages, les photos de cette ville minière sont sur Europe1.fr, tout comme le compte-rendu détaillé du débat de cette nuit.
À 8h06 sur Europe 1, une semaine, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine. Les enquêteurs décortiquent notamment le téléphone de l'assaillant.
Oui, ils ont découvert que le tueur était en contact avec un djihadiste basé en Syrie, Gladys Lafitte.
Oui, un djihadiste localisé dans le nord-ouest syrien, à Idlib donc, grâce à son adresse IP, un internaute avec lequel le tueur de Conflans-Sainte-Honorine communiquait sur Instagram en langue russe. Les enquêteurs doivent maintenant identifier précisément ce correspondant, savoir s'il s'agit d'un contact régulier ou même d'un éventuel commanditaire. Et c'est aussi sur Instagram notamment que le tueur a diffusé un message audio juste après son acte dans un russe hésitant. Il est essoufflé, il explique qu'il a vengé le prophète montré de manière insultante par Samuel Paty selon lui. Puis il demande à ses frères de prier pour qu'Allah l'accepte en martyr. Il était donc prêt à mourir à l'issue de son acte. Enfin, toujours en russe, deux mots font référence à l'État islamique. Avec ce message audio, deux tweets, l'un revendiquant son acte accompagné de la photo de la tête de sa victime et le deuxième la nommant, c'est Monsieur Paty.
Les informations de Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.
Alors depuis cette affaire, on a beaucoup pointé les réseaux sociaux pour les déferlements de haine, la diffusion des fausses informations. Et on voulait donner la parole ce matin à une personnalité à qui c'est arrivé aussi. Figurez-vous que Michel Sardou, lui-même, traîne comme un boulet une rumeur sur Internet qui est ressortie ces derniers jours, partagée des milliers de fois. Une prétendue lettre raciste anti-islam. Nous ne voulons pas de votre religion. Voilà ce qu'on peut y lire. Eh bien, on a passé un coup de fil à Michel Sardou et il a deux, trois choses à préciser.
Ah, c'est pas du tout mon texte, non, mais ça dure depuis des années, ça. J'ai aucun compte sur les réseaux sociaux, et si j'ai quelque chose à dire, je le dis lors d'une interview, et le racisme, pour moi, est complètement étranger, donc c'est pas du tout dans mes préoccupations. Ça fait 5 ou 6 ans qu'un texte comme celui-là circule, j'ai porté plainte à l'époque, la cybergendarmerie avait situé l'anonyme, soi-disant, qui signait de mon nom, on l'avait trouvé à Abidjan. Ça s'était calmé. Et puis là, suite aux événements qu'il y a eu, évidemment, ça recommence. Et le type, au lieu de signer d'un pseudonyme, prend mon nom. Je sais pas pourquoi, il doit s'imaginer que c'est plus important, j'en sais rien. Toujours est-il, voilà, j'ai reporté plainte, encore une fois, voilà.
Michel Sardou qui remet donc les choses au clair ce matin sur Europe 1. Il est 8h08, restez avec nous dans un instant. L'homme qui tire plus vite que son ombre.
Oui, il a 74 ans, hein, Lucky Luke, mais il est toujours aussi habile au revolver.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Sébastien Krebs.
Et 8h10 sur Europe 1, la suite du journal François Geffrier.
Bon alors si on se résume, il a remonté le Mississippi, il a été sur la piste de Billy the Kid, de Jesse James, des Dalton, il a eu une fiancée, rencontré un prophète, un juge, Sarah Bernhardt ou Calamity Jane.
Je suis, Lucky Luke.
Bonne réponse Sébastien. Vous n'irez pas au pénitencier, mais vous avez le droit de lire ce nouvel album, Un cow-boy dans le coton, que Mathieu Charrier a déjà dévoré.
Sur la couverture de ce Lucky Luke, deux visages, celui du cow-boy solitaire bien sûr, et juste à côté, un homme noir. C'est la première fois qu'il y a un héros noir dans un Lucky Luke en plus de 70 ans d'histoire. En fait, notre cow-boy doit se rendre en Louisiane car il a hérité de la part d'une admiratrice secrète d'une plantation de coton. Mais Lucky Luke est bien décidé à la léguer à ses ouvriers agricoles noirs exploités depuis des décennies. Sauf que les autres planteurs blancs, ses voisins, ne l'entendent pas de cette oreille. Heureusement, Lucky Luke va pouvoir compter sur l'aide de Bass Reeves, un marshal noir. Donc, c'est lui que l'on retrouve en couverture. Bass Reeves qui a vraiment existé, explique Jules, qui signe une nouvelle fois le scénario.
On n'allait pas faire le grand sauveur qui allait tout d'un coup abolir les questions de race, de ségrégation. C'est pour ça qu'on est allé chercher dans l'histoire Bass Reeves, le premier grand marshal noir. Il a arrêté à travers sa carrière plus de 3000 malfaiteurs. Et c'était un peu un grand précurseur de Lucky Luke. Lui, il tirait quasiment plus vite que son ombre des deux mains.
Un Lucky Luke ancré dans l'actualité, même si les auteurs travaillent dessus depuis 4 ans. Et avec une particularité, les Dalton, qui pour une fois vont contre leur gré, aider Lucky Luke.
Mathieu Charrier, qui lui lit plus vite que son ombre.
Imaginez, il y a 400 000 exemplaires imprimés pour cet album, Un cow-boy dans le coton. Le foot, ce qui était dans le coton, c'était Nice battu hier 6-2 en déplacement face au Bayer Leverkusen en Europa League. Lille, en revanche, s'est imposé 4-1 sur la pelouse du Sparta Prague.
Le journal de 8h complet avec François Geffrier sur Europe 1, 8h12.